Ensemble sur Calad.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calad. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023. Il fait beau, il faisait beau ce matin dans le Beaujolais. Ça se couvre légèrement et on risque d'avoir des orages et des averses cet après-midi. Et toujours des températures autour de 20 degrés. Dans notre émission, on va parler de zéro déchet avec Carole Sénélard alias Marie Maguelone. On va retrouver notre disquaire Pitch avant la fin de l'heure. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre invité du jour. On reçoit Sylvie Calais, écrivaine et notamment auteure du roman noir Fatoum qui va nous intéresser aujourd'hui. Une histoire sombre, c'est un roman noir, on pouvait s'en douter. Mais quand même, en terminant le livre, je me suis dit, ces personnages, vraiment, ils n'ont pas de bol. D'autant qu'on s'y attache au fur et à mesure de la lecture, on les suit. Ils font des choix qu'on n'approuve pas forcément, mais on les comprend. Le contexte dans lequel ils vivent explique leur travers. Et vraiment, ils n'ont pas de chance. Au fur et à mesure, le sort s'acharne. Et bien, figurez-vous que ça aussi, j'aurais pu m'en douter. Fatoum, en fait, j'ai lu la définition ce matin, ça veut dire le destin, le coup du sort, et qui peut illustrer un concept de fatalité. Bref, mon inculture me joue des tours, ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce roman. On en parle dans quelques minutes avec son autrice Sylvie Calais, qui pourra nous raconter comment elle l'a écrit, ce qu'elle a mis dedans, et d'où lui vient cette envie de parler de fatalité. Mais d'abord, on commence comme d'habitude notre émission en musique. On écoute les Rolling Stones, The Painted Black, ça m'a donné envie de voir la vie en noir. Nous sommes ensemble sur Calais, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Dressed in their summer clothes.
Les Rolling Stones sur Calade avec Painted Black, évidemment, on ne le présente plus ce morceau.
Ensemble sur Calade.
On est bien dans Ensemble sur Calade et aujourd'hui on est en compagnie de Sylvie Calais. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue nous voir. On va pouvoir parler de votre dernier roman, Fatum.
Fatum ou Fatum, ça dépend si on le dit à la latine ou à la française.
Latine, c'est Fatum.
Fatum.
Ok. Bon, moi, je dois aimer les accents latins.
Voilà.
Un roman noir. Moi, je m'attendais du coup à un polar. C'est pas forcément le cas.
Non, c'est assez différent en fait. Le polar est en général est plus centré sur une enquête avec un personnage principal, soit de commissaire, soit de détective.
Ouais.
Tandis que le roman noir, c'est plus déjà un roman d'ambiance avec une atmosphère un peu sombre. Mmh. Et souvent, c'est axé sur les dysfonctionnements de la société aussi.
Ouais.
Donc voilà, c'est pas, si on s'attend à un polar, on risque d'être déçu, puisque même s'il y a une enquête, elle reste secondaire dans le livre.
Ouais. J'ai pas dit dans l'intro ce que ça racontait, l'histoire, etc. Alors c'est pas un polar, donc le suspense n'est pas forcément au cœur de l'histoire, mais j'avais pas non plus envie de vous le gâcher.
Oui, il y a quand même du suspense dans le sens qu'il y a une attente du lecteur de comprendre ce qui se passe, ce qui se trame entre les différents personnages. Mais voilà, c'est pas un roman d'action, on va dire.
Ouais. Comment est-ce que vous raconteriez, vous, Fatum, comment est-ce que vous expliqueriez l'histoire ?
Alors, pour moi, ce livre, il est construit avec deux histoires parallèles. Il y a une histoire contemporaine, que j'appelle, moi, l'histoire horizontale, qui est l'histoire de trois jeunes des quartiers, trois personnages principaux, avec d'autres qui gravitent autour. Mmh. Donc, dans ces trois jeunes, il y a Samia, qui est au lycée, qui a 15 ans, et qui voudrait devenir écrivaine, qui est passionnée de lecture. Il y a son frère Sohan, qui, lui, est en perte de repères. Alors, il a 16 ans, mais voilà, le père de Samia et Sohan est reparti en Algérie. Leur mère peine à joindre les deux bouts. Et donc Sohan est tenté par la radicalisation, ouais, religieuse, et avec certaines influences. Et il y a Abby, la meilleure amie de Samia, qui a perdu sa mère l'année précédente et qui vire un peu racaille, comme on dit,
ouais,
voilà, ce qui crée un peu des tensions entre les deux amis.
Ouais.
Donc ça, c'est la première histoire. Et il y a une deuxième histoire, issue du passé, que moi j'appelle l'histoire verticale, hein, puisqu'elle vient de générations précédentes, d'une fillette tout d'abord, dont on va suivre l'évolution, le parcours de vie. C'est une fillette qui subit l'enfermement, la maltraitance de la part d'une aïeule, et on va comprendre petit à petit pourquoi. Et surtout, ces deux histoires, à la fin, vont
quel
venir se percuter. Voilà, on va comprendre quel est le lien entre, puisque évidemment il y en a un, entre ces différentes histoires de vie, à la fois très différentes, mais qui ont peut-être un thème commun de l'enfermement, puisqu'il y a un enfermement physique, et puis un enfermement, une privation de la parole aussi pour la première personne, et puis un enfermement plutôt dans un milieu social qui peut enfermer, même si Samia, grâce à la lecture, grâce à l'ouverture que lui procure les livres, peut s'en sortir.
Il y a vraiment, c'est ce que je disais dans l'introduction, le titre Fatum, il y a cette fatalité qui suit chacun des personnages où on se dit ils s'en sortent pas, quoi. À chaque fois qu'on a l'impression qu'ils peuvent trouver un peu de lumière, quelque chose qui va les aider, et ben non, il y a un autre élément qui est pas forcément, en plus c'est pas toujours des choses gravissimes, mais juste un petit déclencheur qui va les replonger vers le bas.
Oui, qui va les faire basculer du côté obscur de la force,
c'est
parfois.
Ça.
sauf pour Samia, si on peut, voilà, si on peut modérer ou moduler. Voilà. Mais effectivement, cette idée de fatalité, de déterminisme social aussi. Hein. On n'a pas les mêmes chances selon où on est, comment on vit, avec qui on vit. Donc, effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai pu constater, malheureusement, et qui me tenait à cœur.
Et bien justement, ça vous vient d'où ces personnages? Comment est-ce que vous les avez créés? Disons les trois jeunes.
Alors, sur les trois jeunes, il y a plusieurs influences. Déjà, moi, quand j'étais jeune, je vivais à Toulon et je fréquentais beaucoup de jeunes gens, enfin de jeunes gens d'enfants, de quartiers populaires.
Samia, il y a un peu de vous dedans.
Alors, Samia, il y a un peu de moi dedans, bien sûr, parce que... Alors, bon, bien que je ne suis pas... Voilà, Samia est l'enfant d'un couple mixte, hein, mère ouais. française, père algérien. Moi, je suis fille de Français. Bon, après, ma mère était d'origine italienne.
Mais l'amour des mots...
L'amour des mots, l'amour de la lecture, l'amour des livres, parce que c'est aussi, moi, ce qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, ou, même si je n'ai pas eu la même vie que Samia, ouvert aux autres, ouvert à plein de choses, et puis qui a déterminé, finalement, mon futur métier, puis ma passion pour l'écriture et mon je sais pas si c'est un métier, mais d'écrivaine aussi. Donc Samia, et puis il y a aussi plus récemment tous ces jeunes que j'ai rencontrés, soit en animant des ateliers d'écriture, soit en travaillant auprès d'eux, ces jeunes de CAP avec qui j'ai pu avoir des conversations de fond qui m'ont vraiment parfois très intéressée, mais parfois troublée. Parce que voilà, c'est pas voilà, quand on discute avec un jeune qui est attiré par justement l'extrémisme religieux, et ben ça peut être troublant, et je pense que c'est important d'en discuter, justement de pas se braquer et de discuter avec lui, peut-être pour lui montrer aussi d'autres points de vue, mais toujours sans le braquer. Donc voilà, c'est un peu ces influences là pour ces jeunes des quartiers, comme on dit maintenant.
Justement, vous abordez cette question de l'extrémisme religieux. C'est un sujet qui est difficile à aborder, qui est risqué.
Enfin, oui, je sais pas. C'est risqué par rapport à quoi? Par rapport au
contexte actuel.
Au contexte actuel.
Risqué, je sais pas, non, mais pas.
Je sais pas, c'est quelque chose.
C'est tendu, quoi.
C'est tendu. Après, moi, je connais quelqu'un qui était intervenu dans mon association, dont la fille s'est radicalisée, alors que elle ne s'y attendait pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même un thème actuel. Peut-être qu'on en parle un petit peu moins, mais il est quand même toujours très vif, hein, chez les jeunes. Après, moi, je sais pas si vous avez vu, mais j'essaie de pas porter de jugement. J'essaie juste de raconter une histoire, de raconter ce qui peut faire que, pourquoi, comment on peut basculer de tel côté ou pas.
Et la façon dont est écrit le livre fait qu'on a plusieurs regards tour à tour, et qu'on peut avoir le regard extérieur des personnes qui voient un jeune se radicaliser, qui s'inquiète et qui ne comprennent pas. On a le regard du jeune où on comprend ce qui l'a amené
dans cette situation-là. C'est un peu un roman choral à plusieurs voix, effectivement, avec effectivement le recul de ceux qui sont spectateurs, entre guillemets. Et j'ai essayé aussi d'entrer dans la tête de ces jeunes, enfin de faire entrer le lecteur ou la lectrice dans la tête de ces jeunes, pour que ce n'est pas une idée d'excuser ou quoi que ce soit, mais c'est une idée de comprendre les mécanismes. Et peut-être que si on comprend mieux les mécanismes, eh bien, on peut mieux s'y opposer aussi, ou les éviter, en tout cas, si on pense qu'il vaut mieux les éviter.
Ouais. Il y a un personnage, Kevin Younes, qui est presque drôle et finalement pas du tout. Moi, ce personnage qui cherche à trouver sa place, etc. Des fois, il est un peu caricatural.
Il est un peu caricatural, et en même temps, moi, il me fait très peur.
Il est très effrayant.
Et il a été inspiré de loin, bien sûr, mais par un jeune que j'avais rencontré à Vénissieux, qui avait un regard un peu fou comme ça.
Ouais.
Et en plus, c'est un blanc, c'est un Français qui se convertit. Et comme on dit, entre guillemets, c'est le cliché, c'est les pires. Mais c'est vrai que, voilà, du coup, ça devient très extrême et très violent, parce que c'est un peu une caution, hein, pour sa violence, sa soif de pouvoir, de domination. Et c'est vrai qu'il a des parents très, très fades, très gris, et il y a aussi de sa part de la maltraitance parentale. Et ça, pour avoir discuté ensuite avec une assistante sociale, elle m'a dit ça existe plus qu'on ne croit, mais c'est très difficile à détecter, puisque les parents ne vont pas se plaindre d'être maltraités par leur enfant.
C'est au détour d'une page, des fois, où vous décrivez des situations, on ne s'attend pas et on se dit « Ah ouais, mince !» C'est quand on est justement dans l'intimité de ce garçon où « Bon, ben voilà, je vais voir mon copain, nanana, nanana » et là, on se retrouve face à une situation où, justement, c'est ce que vous décrivez, la violence qu'il a envers ses parents, on se dit, mince, ça existe aussi.
Oui, c'est, effectivement, je l'ai écrit comme ça, un peu d'instinct, et après, je fais souvent ça, j'écris d'instinct, puis après, je vais lire des livres, ou voir sur Internet, ou non, mais voir si c'est plausible.
Ouais.
Et là, en parlant avec une assistante sociale, elle m'a dit, mais oui, c'est tout à fait plausible. Et par rapport à la crédibilité, on va dire, de ces jeunes-là, parce qu'une ou deux personnes ont pu me dire, c'est peut-être un peu caricatural. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec ces jeunes-là qui m'ont dit, mais on les a retrouvés. C'est tout à fait... J'ai aussi un reporter algérien qui a fait un article dans un journal qui s'appelle Bouillon de Culture en Algérie, voilà, qui a trouvé ce roman noir. Alors, il a dit magistral, mais pour moi, c'était important qu'il cautionne aussi, puisqu'on se dit, de quel droit j'écris sur des enfants de couple mixte, de quel droit j'écris sur l'extrémisme religieux. Après, c'est des choses que j'ai ressenties, que j'ai lues, je me suis documentée, mais quand même, j'étais soulagée quelque part que ça soit cautionné par quelqu'un qui vit en Algérie aussi.
Il y a un langage fleuri aussi
Alors, c'est l'argot des cités.
Ouais.
Alors, j'ai joué sur plusieurs registres de langage, vous l'avez sûrement vu, puisqu'il y a toute l'histoire numéro un, on va dire, avec des parties en italique qui viennent ponctuer chaque chapitre. Et là, c'est plutôt une prose poétique, un langage très travaillé, très soutenu. Et un langage médian, on va dire, en ce qui concerne le récit.
Ouais.
En revanche, pour tout ce qui est dialogue entre les jeunes, eh ben, c'est vraiment ce que j'appelle ce langage, un langage wesh-wesh, langage jeune, argot des cités. Et c'est vraiment des choses que j'ai pu noter en demandant parfois la traduction. D'ailleurs, j'ai moi-même mis des traductions. Enfin, j'ai demandé à l'éditeur de mettre des traductions. Mais en même temps, ce que je voulais montrer, c'est que plutôt que de dire « oh oui, ça peut parler, il parle mal », ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il manie différents langages, c'est cette inventivité aussi de tout temps. Il y a eu des argots, il y a eu des jargons, il y a eu des codes comme ça de langage. Et ça change beaucoup. C'est des mots souvent qui claquent très rapides, des expressions très imagées. Mais moi, j'aime tous les langages. En fait, j'aime les mots, mais les mots sont vivants. J'aime le langage, mais le langage est vivant. C'est pas quelque chose de figé qu'on doit. Ça n'a jamais été figé. Je vois pas pourquoi ça le serait maintenant. Voilà. Mais je trouve qu'il y a une richesse dans tous les langages, et que ce soit le langage très très soutenu, très travaillé, très littéraire, même parfois avec des mots désuets qu'on n'emploie plus, ou le nouveau langage des jeunes.
C'est quand ce roman, vous l'avez écrit, c'est quoi le processus que vous avez suivi est-ce que vous avez écrit les deux histoires? Il y a deux histoires en parallèle. D'abord une, et puis vous vous êtes dit, tiens, ce serait bien d'écrire l'autre.
Alors, c'est pas venu comme ça. C'est que je me suis mis une petite consigne d'écriture, comme je fais dans mes ateliers d'écriture. J'ai commencé par « Je suis née ». Je suis née, c'est vraiment le premier passage.
Ouais.
J'ai écrit ce qui m'est venu, vraiment. Alors, après, je l'ai retravaillé au niveau de la forme, mais sur le fond, voilà. J'avais ça en germe, et je me dis, tiens, il y a un personnage intéressant de petite fille qui se dessine. Et en même temps, quelque part, les jeunes se sont imposés à moi. Donc, la deuxième chose que j'ai écrite, c'était le passage sur les jeunes, et puis sur cette femme assassinée. Et je me suis dit, il va falloir que je trouve un lien entre ces différentes histoires, parce que les deux me tenaient à cœur. Alors après, moi, ça tient presque de l'inconscient, puisque j'ai pas vraiment décidé au départ. Je savais quelque part que j'avais envie de parler des jeunes, mais j'en avais déjà parlé dans le livre de portraits, ceux du CAP, qui est publié aux éditions du Poutan. Je voulais pas que ce soit artificiel, je voulais pas parler d'eux pour parler d'eux. Et en fait, ils se sont invités. Ils se sont invités dans mon livre. Et j'ai vraiment construit les deux histoires, pas une et l'autre ensuite, mais en même temps, simultané. Et puis souvent, l'une me reposait de l'autre. En fait, justement, comme ça me permettait d'employer des mots différents, des registres de langage différents, ça me relançait. Et puis, quelquefois, les passages se font écho sur certaines petites indications un peu ténues, mais ils peuvent se faire écho.
On reconnaît, on commence à créer du lien.
On commence à créer le lien,
Ce livre, il est sorti il y a plusieurs mois déjà, fin d'année
Non, il est sorti en janvier, le 12 janvier 2023.
D'accord.
Et c'est un petit de l'année.
Comment est-ce que ça se passe, la publication, trouver un éditeur
Alors là, j'ai eu la grande chance que mon livre soit accepté, mais en fait, il était terminé en octobre 2021.
Ouais.
Mon livre soit accepté par les éditions du Caïman, qui a accepté de le publier, mais qui n'avait pas de fenêtre de publication avant janvier 2023. Donc, il a fallu s'armer de patience, mais c'est ça l'édition. Et puis, les éditions du Caïman, c'est un éditeur stéphanois avec une vraie équipe et une vraie démarche d'éditeur. Et c'est vrai que, avant que le livre sorte, il est envoyé à 3 correcteurs qui font des retours. Il y a des allers-retours. On fait nous-mêmes, je faisais moi-même les corrections demandées. Donc, il y a un gros travail d'équipe. On se sent très soutenu.
Ouais, alors qu'avant le processus, j'imagine, il est beaucoup plus solitaire.
Voilà, il y a un processus solitaire et ça fait du bien d'avoir c'est les premiers retours qu'on a quelque part, à part les deux relecteurs à qui j'avais demandé de lire, mais c'est les premiers retours qu'on a, donc c'est super important. Et puis ça permet aussi de voir des coquilles ou 2-3 incohérences qu'on n'avait peut-être pas vues.
Ouais.
Donc ça, l'œil extérieur est primordial. Mmh. Et ensuite, c'est un éditeur qui a présenté aussi ce livre à des prix littéraires.
Ouais.
Et pour l'instant, il est en lice, Fatoum est en lice pour 3 prix littéraires, dont le prix du roman noir des bibliothèques et médiathèques du Grand Cognac.
Ouais.
Donc le prix Cognac, c'est quand même quelque chose, puisqu'il n'y a que 6 livres en France sélectionnés, 6 romans noirs sélectionnés.
Chaque année.
Ouais, chaque année. Donc okay. Voilà, je suis assez fière, je dois dire.
Bah oui,
je remercie mon éditeur aussi de l'avoir présenté. Et après, ce sont des gens qui sont inscrits dans les médiathèques, les bibliothèques, qui s'inscrivent pour lire les 6 livres, les noter. Et on fait la moyenne des notes. Et ouais, voilà, c'est le gagnant. Voilà. Mais déjà, la sélection en soi, c'est une belle reconnaissance. Et puis, il y a aussi le prix d'Aura Suarez, qui sera remis en octobre aussi à Lyon, donc pour lequel je suis nominée. Et le prix Polar Méditerranée, qui sera remis en juin.
D'accord. Quand est-ce que vous saurez, par exemple, le prix Cognac
Alors, le prix Cognac, je saurai le 21 octobre.
Très bien.
Voilà. D'Aura Suarez, c'est au cours de l'automne, mais je ne sais pas encore.
Quand est-ce qu'on peut vous rencontrer, venir vous voir? Où est-ce qu'on peut trouver ce livre?
Alors, le livre, on peut le commander très facilement. À la librairie des Marais, je sais qu'il en commande régulièrement parce qu'il y a quand même beaucoup de ventes. Mais sinon, on peut le commander dans toutes les librairies, sur tous les sites dédiés au livre. Je serai à la librairie Motamo à Anse le jeudi 22 juin à 19h pour des dédicaces. J'ai déjà fait plusieurs séances de dédicaces avant, pardon, à Polémieux, à la Galerie Les Voix du Piano, à la médiathèque de Mionnet. Voilà. Et je suis tout à fait preneuse si d'autres libraires ou médiathèques ont envie de m'inviter.
Très bien. Il y a un personnage dans cette histoire qui est accompagné par les mots. Voilà, c'est Samia, elle ne vit pas des choses rigolotes. Et c'est les mots qui l'aident,
oui.
La lecture.
Oui.
Moi, ça m'a inspiré une chanson pour se dire au revoir.
Génial, super, je vais écouter la chanson.
Merci beaucoup Sylvie Kelly, à très bientôt.
Merci pour l'invitation, au revoir.
On écoute la rue qui est à nous avec les mots.
Approchez, approchez mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers. Et des mouchetés pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés. Des mots en l'air pour pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire
pour les enfants,
des mots tabous
pour le taboulé.
Aujourd'hui, grand vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot.
Des mots croisés pour les retraités, et des petits mots pour les béguins,
des mots d'ordre pour les ordonnés,
des mots fléchés
pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides, et le mot de la fin pour la chanson.
Le pouvoir des mots chantés par La Rue, qui est à nous, c'était les mots, évidemment.
Ensemble sur Calade.
Et tout de suite avec tous, c'est Carole Sennelard alias Marie Maguelin qu'on retrouve pour la rubrique Zéro Déchet. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, je crois qu'on va surtout s'intéresser à ce qui se passe en cuisine et peut-être même plus précisément dans notre frigo.
Tout à fait.
Bon, alors qu'est-ce que vous avez prévu de nous raconter ?
Alors d'abord, quelques chiffres. Un tiers des aliments produits dans le monde ne sont pas consommés.
Un tiers ?
Un tiers.
D'accord.
Donc déjà, ça fait froid dans le dos.
Et qu'est-ce qui leur arrive ?
En général, ils sont jetés. Soit ils sont jetés parce qu'ils ne sont pas conformes aux critères de sélection.
Donc même pas vendus, en fait.
Voilà, même pas vendus. Soit ils sont achetés, mais ils ne sont pas consommés parce qu'on les oublie au fond du frigo ou du placard, etc. Ça veut dire que ça représente 160 à 245 repas par personne et par an. Mmh. Donc c'est énorme.
Ouais.
C'est énorme. Ça veut dire qu'il faut qu'on range mieux notre frigo, nos placards, et surtout qu'on apprenne à cuisiner les restes. Et donc ça, c'est zéro déchet, puisqu'on essaye justement de consommer jusqu'au bout un aliment, par exemple. Donc, le pain rassis, par exemple, peut devenir de la chapelure pour faire un gratin, peut devenir aussi une farine, quand on va le broyer très très fin, et on va le réemployer dans une autre préparation, sucrée ou salée, pour refaire un gâteau. Moi, avec le pain de mie rassis, quand j'en ai beaucoup, je fais un gâteau de pain perdu.
Ouais.
J'avais donné, je crois, la recette.
On a la recette, voilà, qui doit être sur notre site.
On peut faire un crumble. Avec un reste de viande ou un reste de poulet, on peut donc l'incorporer dans une nouvelle recette, mais aussi on peut faire un bouillon avec des légumes et des aromates pour justement donner du goût à notre bouillon. Et après, notre carcasse, qui sera évidemment bien nettoyée, aura donné toutes ses saveurs. Et là, on pourra jeter la carcasse en définitive.
Elle aura servi jusqu'au bout.
Voilà, nous, avec un poulet, par exemple, on mange une fois un morceau de poulet chacun. Il nous reste souvent une carcasse et quelques morceaux. Et donc, mon mari s'amuse à tout éplucher, tout dépiauter, tout mettre, voilà. Et en général, à la fin, on fait une salade César.
Ok.
Voilà. Un plat avec de l'effiloché de poulet, par exemple.
Ouais.
Et puis avec la carcasse, effectivement, on peut faire un bouillon après, l'incorporer pour donner du goût à une autre sauce ou à un bouillon.
Donc un poulet sert trois fois.
Voilà, il peut servir trois fois. En tout cas, chez nous, c'est souvent comme ça.
Très bien.
Voilà. Avec un reste de légumes, de céréales, on peut faire un veggie bowl. C'est-à-dire que quand vous avez un peu de riz, un peu d'haricots rouges, un peu de carottes, un peu d'épinards. Vous avez l'équivalent peut-être de 2 à 3 cuillères de chaque, vous ne savez pas quoi en faire. Donc soit vous mélangez tout et vous faites une tarte à tout.
Ouais.
Voilà, avec un fond, un appareil, et ça va faire une quiche un peu complète avec plein de choses dedans. Soit vous pouvez faire un veggie bowl, c'est-à-dire que vous allez mettre tous vos restes dans un bol ou un grand saladier. Ça dépend le nombre de personnes que vous êtes et les quantités de restes, mais ça peut vous faire un repas pour une ou deux personnes complets en mélangeant tous les restes ou en les séparant selon les goûts de chacun.
Ça fait une espèce de salade.
Oui, alors le veggie bowl, en fin de compte, c'est qu'on n'a que des légumes et des légumineuses et des féculents. Donc on peut mettre de la sauce, du jus de citron, des des aromates et effectivement ça fait un plat végétarien. Mais c'est pas une obligation aussi. Mmh. Voilà, ça dépend des restes qu'on a.
Ouais.
Et chez nous, souvent le lundi midi et des fois le mardi midi, parce que moi je suis toute seule, en semaine, ben je mange les restes du week-end.
Bah ouais.
Donc ça me permet d'avoir deux repas qui sont déjà prêts, que j'ai plus qu'à faire réchauffer. Donc ça peut être aussi l'opportunité de faire un lunch rapide pour celui qui mange à l'extérieur et qui aura plus qu'à réchauffer son plat.
Et de gagner du temps, bien
voilà,
sûr.
Et de gagner du temps. Et donc pour justement essayer d'optimiser les restes, eh ben on peut réapprendre ou apprendre à ranger son frigo, parce que les placards et les frigos sont des fois mal rangés, et c'est pour ça qu'on oublie certaines choses, qu'on les laisse dépérir au fin fond du frigo.
Les sacs de patates qui ont germé au fond du placard en général.
Voilà. Donc c'est important. Donc déjà, il y a, on va dire, trois zones dans un frigo. Il y a la zone du bac à légumes, où là, évidemment, on va mettre tout ce qui se conserve au frais, comme la salade dans un torchon, les asperges, etc. Mais certaines choses ne se mettent pas au frigo, comme les œufs et les tomates. Mmh. Alors les œufs, parce que ben, vous ne les achetez pas au frigo dans le magasin, donc vous n'avez pas besoin de les mettre au frigo. Bien au contraire, ça va les faire descendre en température, après vous les remontez. Enfin, normalement, les œufs, on les utilise à température ambiante.
Ouais.
Tant qu'ils ne sont pas cuits. Les tomates, ça va les empêcher de mûrir, de continuer de mûrir, et c'est le cas de plein d'autres légumes également. Donc certains doivent être mis au frigo, mais d'autres pas du tout. Donc ça, il faut le savoir. Une méthode aussi qu'on applique au frigo, c'est la méthode FIFO, First In, First Out. Donc c'est de l'anglais, ça veut dire que la première chose que vous avez mise au frigo, il faut qu'elle sorte en premier. C'est-à-dire que si vous achetez un aliment que vous l'avez mis dans le frigo, ben, il faudra le consommer avant celui que vous allez introduire dans le frigo deux jours après, par exemple. Parce que ben, s'il est déjà là, il faut penser à le consommer en premier.
Ouais.
Ça permet justement d'avoir des dates courtes et d'avoir des produits frais.
Mmh.
Et puis qu'on ne les oublie pas.
Ou qu'on range par le fond.
Voilà.
Quand quelque chose de nouveau arrive.
Voilà, on le met tout à fait. On le glisse derrière, par exemple, les yaourts, les fromages blancs. Et ben, on va regarder les dates avant de les ranger. Et on va toujours mettre les dates courtes, les plus courtes, en premier devant pour que ça soit plus facilement accessible. Dans la porte, on va mettre le beurre, les boissons entamées, par exemple. Dans la partie la plus froide, hein, donc en général, c'est tout en bas, mais ça dépend des frigos, donc il faut quand même vérifier. On va mettre le poisson, les viandes, les produits laitiers, les produits du traiteur, les jus frais, les plats cuisinés, ou ceux qu'on cuisine nous, c'est-à-dire que, qui ont déjà été transformés, puisqu'ils ont une durée de vie un peu plus courte. Et puis, entre 4 et 6 degrés, les restes cuits, les yaourts, les préparations maison et les fromages. Donc, tout dépend effectivement de comment fonctionne votre frigo. Donc, ça, c'est à vérifier. Vous pouvez aussi vérifier la température de votre frigo avec un thermomètre, c'est important. Pensez à étiqueter quand vous faites du meal prep ou du batch cooking. Donc, c'est souvent quand on cuisine, mettons sur 2 heures tous les dimanches pour le reste de la semaine. Ça va nous permettre d'anticiper. Donc, il y a 2 solutions. C'est soit le batch cooking où là, on va vraiment cuisiner des plats complets. Une tarte au fromage, un osso buco, un poulet rôti qu'on va conserver après et qu'on mangera tout au long de la semaine, ou le meal prep. Alors le meal prep, c'est un peu le même principe, mais on cuisine les aliments indépendamment. C'est-à-dire qu'on va faire un plat de riz, on va faire un plat de légumes sautés, on va faire une boîte avec des carottes râpées, et tout au long de la semaine, ça va nous permettre de construire nos plats, nos menus, ou nos salades, ou nos bowls, si on est végétarien, par exemple.
En mélangeant les aliments qu'on
a. Donc on prépare en amont, mais plus les choses indépendantes. Voilà.
D'accord. C'est-à-dire
qu'on ne mélange pas, et on mélange au dernier moment.
Okay.
Donc il y a 2 techniques. La technique est presque la même, puisque de toute façon c'est de l'anticipation. On va cuisiner sur une période courte, un jour dans la semaine pour le reste de la semaine, ou tout au moins les 2-3 premiers jours de la semaine. Voilà. Donc ça sert, c'est intéressant et c'est pratique parce que ça permet de s'organiser, donc toujours de l'anticipation. Mais penser à étiqueter, mettre la date de fabrication, éventuellement de se dire il y a des œufs dedans, donc c'est pendant 2 jours maximum que ça va se conserver, etc., etc. Alors je sais que les œufs cuits durs se gardent plus longtemps, par exemple, mais voilà, bien respecter tout ça et consommer ce qui se garde le moins en premier, évidemment. Donc le lundi, si vous cuisinez le dimanche, le lundi, eh ben mangez ce que vous aurez fait en premier, qui va se conserver moins longtemps. Par exemple, les préparations à base de viande ou de poisson ou d'œuf.
Oui.
Voilà.
pour éviter de gâcher.
Et voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'un aliment cuit peut se conserver un peu plus longtemps s'il arrive en date courte. Vous pouvez aussi congeler. C'est-à-dire que si vous avez un blanc de poulet qui est limite en date mais qui n'a pas encore dépassé sa date, vous pouvez le congeler et vous pourrez vous le décongeler et vous en servir plus tard. C'est aussi une façon de faire du zéro déchet, c'est-à-dire de ne pas gâcher. En ne jetant pas. C'est pareil, des fruits abîmés, bah, on peut en faire une compote, on peut les congeler pour les mettre dans un smoothie plus tard, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est des bonnes idées. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, puisqu'on parlait de ce qui se passe dans nos frigos, je vous propose d'écouter la Mano Negra avec un morceau pas super joyeux, mais qui est sympa quand même. Ça s'appelle Le bruit du frigo.
Il n'y a plus rien, qu'elle est partie. Il n'y a plus de voisins. Y a même plus le chien. Quand y a plus de bruit, pas plus que celui qui rend mélo. Et je prends un verre pour l'oublier. Je mets ma tête sous l'oreiller pour éviter d'entendre pleurer ce frigidaire. Et puis voilà qui se met à faire froid. Je renverse ma bière sur l'oreiller. Et toi t'aimais plus d'un près de moi. Va devenir toi et à me dire que je pue. J'entends plus rien que le bruit du frigo. Et tout à coup, persécuté par ce bruit sourd, et en voûtant, je deviens fou. Plus un bruit, même plus celui qui rend mélo. Le bruit du frigo. Quand y'a plus rien que le bruit du frigo. Quand y'a plus rien que le bruit du frigo.
C'était pas très joyeux, c'était la Mano Negra avec le bruit du frigo.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Le choix du disquaire.
Ensemble sur Calade.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Mais ce qui va nous remonter le moral, c'est effectivement de retrouver notre disquaire Pitch. Salut, comment vas-tu?
C'est toi qui me remonte le moral, c'est un jingle toujours aussi légendaire, inlassable.
Bon, tu nous proposes chaque semaine l'album à écouter tranquillement le week-end, le vendredi, ça tombe bien, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as choisi pour nous?
J'ai choisi Fishing for Accidents de Wax Taylor, le dernier album de Wax Taylor.
Donc Fishing for Accidents, pêcher pour des problèmes, quoi, grosso modo.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi cet album?
Bah parce que je, voilà comme beaucoup de gens dans le monde entier, j'ai envie de dire. J'adore le travail de Wax Taylor. Donc Wax Taylor, c'est un compositeur, voilà, qui est dans un trip hop, hip hop, down tempo, au niveau du style musical. Et qui est en tournée actuellement, en tournée mondiale.
Ouais.
Et il a emmené avec lui en tournée plein de d'invités de son dernier album, dont notre ami Napoléon Da Legend, dont on avait déjà parlé ensemble.
Ouais.
Que je connais bien. Après, il y a Ill Conscious aussi, que j'adore dans cet album. Il y a aussi une chanteuse de Houston. J'ai oublié son nom.
Victoria Bigelow.
Voilà, c'est peut-être le morceau que tu as choisi, que je trouve trop classe.
Ouais, alors moi j'avais choisi un autre morceau, mais ça peut toujours changer.
Oui, non, mais voilà, voilà. Et j'en place une spéciale pour Bruno, le voisin du quartier avec qui on a écouté cet album, il adore Axel aussi. Moi j'ai l'édition rouge en pochette ouvrante, il y a une autre édition aussi en pochette en blanc, pareil, pochette ouvrante. Édition simple, édition CD, c'est très très bien fait, c'est une belle pochette, et ça passe crème en fait.
Ouais.
C'est vraiment trop trop bien. Il y a énormément de monde, il ramène vraiment beaucoup beaucoup de monde sur ces dates. C'est pour genre l'artiste à la fois underground et à la fois mainstream en fait. Il y en a peu qui ont réussi à, parce que quand on parle comme ça, Wax Taylor qui connaît, pourtant il y a des milliers de personnes qui vont le voir en concert quoi.
Ouais. Et Wax Taylor, juste le nom laisse supposer un amoureux du vinyle en fait.
Ah ben tout le temps il met à fond le vinyle en avant. Il y a un disquaire qui a ouvert il n'y a pas si longtemps dans sa ville d'où il est. Il est dans une ville, il habite dans une ville, j'ai oublié le nom, pourtant qui est assez connue, mais qui est à mi-chemin entre Paris et Le Havre.
Ouais.
Et il y a un disquaire qui est là-bas, où il va souvent. Et ouais, le gars est à fond dans le vinyle. Moi, c'est Wax Thread, puis c'est Wax Taylor. Après, il y en a des wax, il y en a.
Ouais.
Donc ouais, pour rappeler qu'est-ce qu'est la wax, c'est la cire, et donc c'est l'argot pour dire les vinyles.
Ouais, c'est la matière.
La voilà, matière et Taylor, par rapport au taylorisme, voilà.
Tout simplement. Au niveau de sa musique, t'en as un petit peu parlé, mais quelqu'un qui n'a jamais entendu un seul morceau de Wax Taylor, il doit s'attendre à quoi?
Du trip-hop, du down-tempo. Il y a une vibe un petit peu cinéma orchestral, je dirais. Il peut nous emmener dans des univers un peu de cinéma. Mais ouais, voilà, trip-hop, down-tempo. Hein.
Ouais. Bah, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Peach. On va écouter un extrait de cet album. Moi, j'avais choisi le morceau Home. Mais finalement, on va peut-être écouter celui avec Napoléon Da Legend, Freaky Circus, pourquoi pas.
Comme tu le sens, ok. Ouais, ouais.
Allons-y, partons là-dessus. Merci beaucoup encore une fois, Peach. À tout bientôt.
Merci à toi.
Let's get started.
The greatest show on earth. The goats get the perks. Wet work, catch a body, then collect the purse. Glass palaces with fallacies is real. Got more dreams than reality could ever kill. Barnum and Bailey got a bargaining. But stardom on the daily, sleight of hand. The deck of cards is shuffling and shading. Witnessing the ringmaster work the magic. The prize is in the sky, not the limit. Put you in the dirt to catch it. Virgin bastard, Birkin bass, crocodile attachments. You dropped out, declining, y'all. No Charlie Chaplin. Yes, bro, them dudes is probably laughing. After the show and lights, he's back at the car relapsing. Stars on the fast track, dudes is Harley rapping. Made it an art form, specialized in party crashing. Nothing karma can't cash, got you ransacked. Came back for your bag, homie, ran that.
It's like a jungle sometimes. You feel people getting nervous. It's like a jungle sometimes. We're living in the freaky circus.
In the freaky circus.
Attention, attention.
Sometimes we're living in the freaky circus.
I'm the ringmaster, a spectacle
Rehearsal, you buy tickets faster. The spellcaster, aka the puppet master. I appear with bright lights and chairs. Use chairs to tame animals you usually fear. Death inviting your attempts to try and view behind the curtain. Your intrigue leads me to believe the scheme is working. My design, believe, is more devious with time. The lines between what's legal and crime are undefined. Stay blind to all that jargon, cause you really got a bargain. Not a peep, yeah, you asleep, the show is starting. The elephants that never forget, I drown them in debt. Standing on their hind legs, saluting regrets. The lions are frightened, ran to my contortionist to bite them. We delighted, presenting these two worlds colliding. The clowns, oh, that's all of us who live in any town. The prices go up, the taxes keep you run down. A culture that crafts vultures, predators are sculptures. Masterworks for those who can't look past the perks. We hear the cries, hence we're nearby to capitalize. That's why I greet you personally when you arrive. It's like the jungle sometimes. Sometimes you feel people getting nervous. It's like a jungle sometimes. We're living in the freaky circus. People getting nervous. Sometimes. We're living in the freaky circus.
The below world, but no one ever has, no one ever will.
Let's check it out.
That's a little freaky.
Yeah, you're right, Dan.
We're living in the freaky circus.
Wax Taylor sur Kellad avec Mr. Leaf et Napoléon Da Legend. Le morceau qu'on vient d'entendre, c'était évidemment Freaky Circus, extrait de son dernier album, ça vient de sortir, ça s'appelle Fishing for Accident. C'est ce qu'a choisi de nous faire écouter notre disquaire Pitch de l'Underground Store à Villefranche.
Ensemble sur Kellad.
Allez, il nous reste à peine 3 petites minutes avant nos pages d'information quotidiennes de 13h. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous mardi à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Kellad. J'ai juste le temps de vous faire écouter, pourquoi pas, une nouveauté, une nouvelle découverte. Le groupe s'appelle Little Dragon et le morceau que je vous fais écouter s'appelle Kenneth. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt sur Kellad. Ciao, ciao.